Bonjour à tous et merci Nicolas et Marc de m'avoir invité à parler sur surveiller et prédire, mais je dirais ça va être plutôt prédire et surveiller, parce que je vais vous parler de médecine prédictive et de son corollaire qui est la surveillance. Et donc, genre, j'ai changé un petit peu le titre parce que j'avais proposé un titre très large, c'était tests génétiques dans leur ensemble, mais finalement j'ai dit quand même, je vais parler de ce que je connais, et je vais surtout parler donc d'oncogénétique, c'est-à-dire les prédispositions génétiques au cancer, qui sont véritablement une application emblématique de la médecine prédictive. Mais je voudrais d'abord, je dirais, dédier cette intervention à Olga Sinilnikova-Erhard, qu'un certain nombre d'entre nous connaît, que Marc connaît et qui nous a quittés il y a quelques mois. Voilà, ils sont avec beaucoup d'émotion que je parle aujourd'hui à Lyon. Et donc, médecine prédictive. Donc, je voudrais faire un petit peu d'histoire. Et dans ces premières diapositives, vous vous rappelez que c'est un terme qui a été créé en 1972 par Jean Dossé et Jacques Ruffier, après qu'ils avaient découvert certaines associations avec des antigènes HLA, qui caractérisent notre système d'histocompatibilité avec certaines maladies, comme en particulier l'hémochromatose ou la spondylarthrite ankylosante. Et à ce moment-là, Jean Dossé et Jacques Ruffier écrivaient en lettres aux générations 2000, avec beaucoup d'enthousiasme, la médecine prédictive est le dépistage d'un individu indemne, susceptible de développer une affection déterminée. Elle est une médecine préventive individualisée. Son postulat est que l'information est un outil d'aide à la décision, retrait d'exposition, changement de mode de vie, traitement préventif. Cela permet de diminuer la probabilité de survenue d'une affection ou la réduction de sa sévérité. Donc on est là véritablement, je pense, dans l'objet du séminaire que vous avez mis en place. Et un peu plus loin, Jean Dossé précisait, il avait eu le nez creux et il avait évidemment étendu son observation HLA et maladie à celle de l'ensemble du génome humain. Il disait, devant cette importance du système HLA dans la recherche des susceptibilités, nous avons pensé à créer un centre d'études du polymorphisme humain. Et effectivement, il a créé ce qu'on appelle le CEF. CEF, donc, nous disant que s'il y a des susceptibilités dans le système HLA qui représentent seulement le millième du génome humain, il devait y en avoir sur l'ensemble du génome humain. Donc il avait pressenti la mise en évidence d'un grand nombre de variants génétiques impliqués dans des maladies mendéliennes, ça on pouvait les connaître, mais aussi des variants de susceptibilité, des polymorphismes qui pouvaient chacun contribuer à la maladie. Et je pense que la notion de polymorphisme va être abordée par l'intervention de Catherine. Donc je vais un petit peu plus loin sur le propos de l'enthousiasme de Jean Dossé sur la médecine prédictive. La génétique permettra de connaître cette susceptibilité et donc d'éviter la maladie par des mesures appropriées, préventives, curatives ou simplement palliatives, comme une bonne hygiène de vie. Voilà ce que sera la médecine du XXIe siècle, une médecine prédictive. Chacun sera responsable de son capital santé qu'il devra prendre en main résolument avec l'aide de son médecin, celui-ci devenant plus qu'un soignant, un conseiller des bien portants, un docteur Knock, en quelque sorte. Toute personne est un malade qui s'ignore. C'est un peu terrifiant. Mais je voudrais maintenant aller un peu plus avant pour vous dire que l'une des applications majeures aujourd'hui de la médecine prédictive, c'est les prédispositions au cancer. Le premier paragraphe reprend ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire que la légitimité de la médecine prédictive, c'est légitimité qui demande peut-être à être vérifiée, hein, c'est que des mesures de prévention ou de traitement doivent diminuer l'impact de la maladie attendue. Peut-être pas la maladie elle-même, mais au moins son impact. Et donc l'une des implications majeures, c'est les prédispositions au cancer. Et on sait que 5 à 10% des cancers fréquents, cancer du sein, du côlon, de l'ovaire, de l'endomètre, je mettrai un peu à part le cancer de la prostate et du poumon, eh bien, sont liés à un facteur génétique, je dirais mendélien, c'est-à-dire qu'il y a une contribution importante dans le déterminisme de la maladie et qui est transmis selon le mode dominant. Ça veut dire que la transmission de ce facteur génétique de risque, elle a lieu de l'un des deux parents à un enfant, et ceci donc conduit à l'apparition d'histoires familiales. Pas toujours, mais on a comme corollaire de la transmission dominante la notion d'histoire familiale. C'est ce sachant porteuse d'une altération du gène BRCA1 pour Breast Cancer 1 qu'Angelina Jolie a choisi de subir une chirurgie mammaire de prévention. son témoignage en mai 2013 a eu un impact majeur dans le monde sur la demande de tests génétiques. Et nous avons observé un doublement de demande de tests en France, et ça a été la même chose en Grande-Bretagne. Et je voudrais vous dire sur cette diapositive que je dois à Daniel Serin que la préoccupation quant à l'hérédité des cancers, elle est ancienne. Alors, vous ne pouvez pas beaucoup lire, mais j'essaie de vous lire quand même parce que je trouve que c'est très beau. Dans une observation qu'il a donnée à l'Académie, un certain, le docteur Mann, dit qu'une religieuse d'Avignon, âgée de 19 ans, avait à la mamelle droite un cancer pour lequel elle craignait l'extirpation plus que la mort, parce qu'une grand-mère et un grand-oncle maternel qu'elle avait eu, étaient morts de pareille maladie. Ce devait pourtant être une bonne raison pour qu'elle la fît faire, cette intervention, mais elle concluait que cette maladie était héréditaire et que son sang était vicié par un levain cancéreux naturel dans sa famille et qu'ainsi l'opération ne la guérirait pas. Dans le cours d'un an, les douleurs devinrent si insupportables que la malade même demanda l'opération avec instance. Malgré la contre-indication apparente, M. Mann fit l'opération après une consultation où elle fut décidée. Et la malade, qui guérit par ce moyen, a joui ensuite d'une parfaite santé. Il est vrai que quand la suppuration commença à diminuer, il ouvrit à la religieuse un cautère aux quatre extrémités dans le dessein de donner un égout continuel au levain prétendu héréditaire. Je trouve que ça magnifique. Avait-elle, cette très jeune femme, véritablement un cancer du sein? C'est exceptionnel, même dans nos histoires familiales de type BRCA2, un oncle atteint de cancer du sein, ça évoque bien sûr une altération du gène BRCA2, mais l'âge au diagnostic 19 ans est tout à fait exceptionnel. Et peut-être autre chose, tant mieux pour elle, mais ça a permis que cette observation qui date de la moitié du XVIIIe siècle soit rapportée. Et puis, un autre témoignage là, d'un homme qui était un militaire en poste à Meknès au Maroc en 51, et qui écrivait au docteur Beau à l'Institut Curie: « Docteur, devant ces morts successives causées par la même terrible maladie, je finis par me demander si ce fléau n'est pas héréditaire ou tout au moins si la branche maternelle de ma famille n'offrait pas des prédispositions. Ayant depuis le 5 février 1949 une fille exacte reproduction de ma mère, et on devine que cette dernière a été soignée à l'Institut Curie, j'en arrive à craindre pour elle. Comment dépister, comment prévenir cette affreuse maladie ?» Donc voilà, dans cette lettre est vraiment résumé les préoccupations des personnes qui ont une histoire familiale. Et je dirais que l'oncogénétique moderne, elle a commencé il y a 30 ans, bientôt 30 ans, avec l'identification d'un premier gène de prédisposition au cancer, qui est celui du rétinoblastome. Le rétinoblastome, c'est une tumeur rare de la rétine de l'enfant, un enfant sur 20 000, 40 cas par an en France, mais c'est vraiment une situation dans laquelle la moitié des enfants atteints de rétinoblastome, en fait, a une prédisposition qui a pu être héritée d'un des deux parents ou qui est le fait d'une néomutation. Et donc 1990 a ouvert les tests génétiques de prédisposition au cancer, puisque c'est l'identification du gène. Juste 15 ans avant, 1971, Alfred Knudson, qui est un épidémiologiste, avait introduit la notion de gène suppresseur de tumeur. Alors, monsieur, pour les grands puristes, il faut rajouter que Cummings a contribué à la chose. Mais je passe sur l'aspect scientifique, sinon on y est encore demain. J'ai un grand nombre de diapositives. Et ces diapositives aussi pour vous dire que 94, donc il y a 20 ans, c'est l'identification du gène BRCA1, donc gène de prédisposition majeure au cancer du sein. C'est une diapositive que j'ai depuis 20 ans aussi. Et maintenant, je dis qu'elle est vintage, ma diapo, mais elle tient toujours la route. Et en gros, elle raconte, c'est le parti du haut, l'identification du gène. 1990, Marie-Claire King, à partir de familles à cas multiples de cancer du sein, a localisé le gène par ce qu'on appelle une étude de liaison génétique. Et puis, dans le cadre d'un Breast Cancer Linkage Consortium, et ça, c'est important, et je reviendrai sur l'importance des consortiums dans l'avancée des connaissances, eh bien, le Breast Cancer Linkage Consortium a confirmé, précisé la localisation du gène. Et je donne ici la définition de Doug Easton dans un article très important de l'American Journal of Human Genetics de 1993, où il était précisé la localisation du gène, et qui définissait ainsi le BCLC en disant qu'il représentait l'ensemble des laboratoires réalisant dans le monde entier des études de liaison sur le cancer du sein. Les équipes se rencontrent tous les 6 mois depuis 89 et je crois que la première réunion a eu lieu à Lyon, au Centre international de recherche sur le cancer et avait été à l'instigation de Gilbert Lenoir. Je ne me trompe pas, Sylvie. Hein. Bon. Voilà. Et donc, ils partagent leurs données de liaison à chaque réunion. Alors ça, c'est formidable. Simplement, dans cette petite affaire, on y reviendra dans la discussion, il y a eu un seul gagnant, un winner, qui a été Myriad Genetics, qui a été créé par Mark Skolnick, qui a su réunir des moyens financiers importants pour acheter des séquenceurs et pour gagner la dernière étape, qui était l'identification du gène. Il s'agissait de séquencer un très grand nombre de fragments chromosomiques qui sont signifiés par ces petites flèches bleues et de repérer quelle était la région, enfin le fragment qui correspondait qui avait la structure d'un gène et qui était le siège d'une mutation inactivatrice chez les femmes atteintes dans les familles liées au gène BRCA1. Et puis on s'est aussi aperçu très vite que BRCA1, toutes les mutations donc, qui portaient sur un seul allèle du gène BRCA1 étaient aussi associées à un risque de cancer de l'ovaire. Et je voudrais faire un petit peu d'histoire sur l'organisation de la génétique. Mais juste ces deux diapositives qui sont illisible, mais c'est pour vous dire que depuis lors, une quarantaine de situations de prédisposition au cancer ont été identifiées. Et là, je ne parle que de maladies mendéliennes, un déterminisme fort. Et avec soit il s'agit de formes familiales de cancer dont on a pu identifier un gène, soit il s'agit de maladies, vous ne voyez pas si ici, mais de maladies prédisposant au cancer, où il y a en plus une maladie, en particulier des anomalies de la réparation de l'ADN, et parce que c'est un grand nombre de prédispositions, et en particulier BRCA1 et 2, mais aussi des poids lourds des prédispositions au cancer du côlon, comme ce qu'on appelle le syndrome de Lynch, sont le fait de gènes qui sont impliqués dans la réparation des altérations de l'ADN. Et je voudrais faire un petit peu d'histoire pour vous dire voilà, l'organisation des tests génétiques en France et vous dire que le groupe génétique et cancer, qui est là encore, est né à Lyon, enfin, c'est vraisemblable, parce qu'il y a eu une réunion... Non, c'est juste, c'est l'histoire. Et il y a eu une réunion, je crois que c'était en 91, qui a eu lieu à Lyon, au Centre Léon Bérard, qui était organisé par Agaï Sobol. C'est vraiment une réunion fondatrice. Et l'idée était donc de réunir des personnes travaillant autour des prédispositions au cancer. Et au départ, on est en 91, donc 3 ans avant l'identification de BRCA1. Donc le BCLC, c'est 89. Et donc, il s'agissait de réunir des familles à cas multiples de cancer, avec deux grands poids lourds, le cancer du sein, mais aussi les tumeurs médulaires, la thyroïde, et avec RET, donc sujet que connaît bien Marc. Il s'agissait de réunir des familles à cas multiples pour aller vers l'identification du gène. Parce que ce qui est une constance, c'est que tous les travaux qui ont été faits dans le domaine, et comme en génétique médicale, reposent sur la réunion de personnes atteintes, de leur famille et de leur ADN. Et donc, le groupe génétique et cancer avait finalement créé dans une dynamique de recherche, très vite s'est associé une dynamique de prise en charge. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est bien de solliciter une famille, mais on se doit de donner immédiatement, même si on n'est pas encore capable de faire un test génétique, on se doit de donner immédiatement des recommandations de prise en charge pour les apparentés. Et finalement, c'est au départ ce qu'étaient des entretiens de recherche, se sont très vite structurés en consultation de génétique, en consultation médicale de génétique. Et le GGC donc, avait pour vocation de fait d'élaborer des modalités de prise en charge et de contribuer à l'amélioration des connaissances. Et puis en 2008, le GGC a rejoint la Fédération française de génétique humaine qui regroupe l'ensemble des sociétés savantes et groupes collaboratifs dans le domaine de la génétique. Voilà une photo, Lyon, mars 80, de 2014, 23 ans plus tard, nous ne sommes pas tous présents, mais aujourd'hui le GGC est plus d'une centaine de membres et sont des personnes d'horizons différents. Il y a des médecins, des pharmaciens, il y a des chercheurs, et des chercheurs dans des disciplines différentes qui peuvent être de la génétique fondamentale aux sciences humaines et sociales. Et puis il y a également, nous aurons rejoint un nouveau métier que sont les conseillers en génétique. Et donc je voudrais là, il ne s'agit pas de faire un cours sur l'oncogénétique, mais vous dire peut-être évoquer les préoccupations que doivent avoir les personnes qui se risquent à une médecine à risque, qui est celle des prédispositions au cancer. Et je veux vous faire deux grands volets. Un qui concerne des préoccupations déontologiques. Avant, j'avais parlé de préoccupations éthiques, mais finalement, je dirais que les questions qui sont posées là sont celles plutôt du devoir. Il n'y a pas de tension éthique, il faut voir. Et puis, il y a un autre volet qui est plus éthique et qui, là, concerne les liens avec les patients. Et puis ensuite, je vous dirai un mot, bien sûr, sur les perspectives et ce qui est en train de changer avec l'avancée des connaissances. Et donc, on doit, à mon avis, se préoccuper de façon obsessionnelle quand on se risque à faire des tests génétiques sur la validation clinique des tests génétiques. Alors, je pense que Catherine, tu vas en reparler, ça va être un peu un cœur de ton affaire. C'est qu'il y a un gap aujourd'hui entre la signification biologique de certaines associations, qui peut être très importante avec des petits p, 10 puissance moins, je ne sais pas quoi, et puis la validation clinique, c'est l'utilisation plutôt clinique. J'aurais dû dire l'utilité clinique, c'est-à-dire en quoi ça apporte aux patients. Et là, le gap peut être important. Et donc, il faut se méfier. Toute connaissance n'a pas forcément une traduction clinique, un intérêt clinique évident. Ensuite, l'accès à l'innovation et l'équité d'accès, ça doit être une de nos préoccupations. Et puis l'autre, c'est ne pas se tromper. Et je vais essayer d'illustrer les deux derniers points. Concernant l'accès à l'innovation et l'équité d'accès, eh bien, en fait, j'évoquerai ce qu'a fait l'Institut national du cancer, mais ce qu'avait déjà fait ce qu'on appelle la DHOS, la Direction d'hospitalisation et de l'organisation des soins, qui est devenue la DGOS, qui doit être la Direction générale de l'organisation des soins, et qui, dès 2003, avait donné des financements pour l'organisation des consultations de génétique, c'est-à-dire que le ministère de la Santé avait compris qu'on ne pouvait pas faire des tests génétiques sans une information des personnes. Donc il y a eu d'emblée un financement pour la consultation et également pour les laboratoires. Et juste, donc là c'est 2003. Et puis ensuite, l'Institut national du cancer qui a été créé en 2005 dans le cadre du premier plan cancer, eh bien, a pris le relais pour le dispositif oncogénétique. Et donc aujourd'hui, il y a 122 sites de consultation qui sont répartis dans 83 villes. Il y a, alors là, je crois que c'est en... mais ça doit être le rapport d'activité 2013, celui-là, ou 2012, vraiment, ça importe peu. 44 000 consultations ont été faites, c'est plus de 10% par an, et je vais vous montrer les courbes. Et ces consultations s'inscrivent dans une pluridisciplinarité. Ce n'est pas un généticien seul, c'est un généticien avec la prise en charge associée. Et puis avec aussi l'accompagnement, et je pense en particulier aux psychologues. Et puis ce sont 25 laboratoires qui examinent une trentaine de prédispositions, c'est-à-dire qui sont entrés dans la pratique médicale. C'est 91 gènes différents, mais avec les poids lourds que sont BRCA1 et 2, et les gènes, ce qu'on appelle du mismatch repair, qui c'est une prédisposition au cancer du côlon, et c'est ce qu'on appelle le syndrome de Lynch. 13 000 cas index, c'est-à-dire 13 000 premières études dans la famille, 6 000 apparentés testés. Et donc, là, c'est les données de 2013, puisque c'est plus 16% par rapport à 2012. Et puis, le troisième étage a été mis en place à partir de 2009. C'est un centre de recours. C'est la création de centres de recours et de centres de recueil du suivi, parce qu'il est très important de savoir qu'est-ce que font les personnes auxquelles on fait ces tests. Et donc, c'est essentiellement qui concerne les personnes à haut risque de cancer du sein et de l'ovaire et du côlon. Et donc voilà, pour vous montrer la progression des consultations génétiques depuis la 2013, là c'est 2012, donc on est passé de 12 000 à 43 000, donc vous voyez, enfin, ce sont des droites. Et en bleu, je crois que ce sont pour les prédispositions au cancer du sein, et en bleu foncé, et l'autre, c'est les prédispositions au cancer du côlon. Donc pour vous dire que ce sont les poids lourds. Et là, ce sont la progression du nombre. Donc du nombre de tests génétiques, donc 13 000 pour les cas index, et vous voyez, donc là, c'est 7 800 pour BRCA1 et 2, et en 2014, on n'a pas encore le compte-rendu, mais c'est probablement à peu près 10 000 tests. Peut-être juste un chiffre pour que vous ayez en tête les choses. On estime qu'environ une personne sur 500, peut-être même une sur 400, est porteuse en France d'une altération de BRCA1 ou de BRCA2. Et si on considère que les femmes qui sont âgées entre 25 et 70 ans, si je ne me trompe pas, c'est 30 000 femmes en France qui sont porteuses d'une altération de l'un ou l'autre de ces gènes. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, en termes d'accès à l'innovation, si on considère que ces tests sont une innovation, et d'équité d'accès, je crois que l'INCa, en finançant consultations, laboratoires et centres de prise en charge, eh bien, remplit son rôle. Il y a des choses à améliorer, il y a sûrement, mais bon, on pourra en parler dans la discussion. Aujourd'hui, l'INCa remplit son rôle. Est-ce que ça va tenir? C'est peut-être encore une discussion. L'autre préoccupation que l'on doit avoir, c'est celle de ne pas se tromper, dans l'estimation des risques. Et aujourd'hui, le défi n'est plus l'identification d'une mutation, les séquençages, c'est l'interprétation biologique et clinique. S'il y a des mutations qui introduisent un codon stop, et donc là, on n'a pas d'état d'âme, on peut retenir qu'elles sont délétères, quoique parfois on a des surprises. Je pense à Sylvie qui a décrit, il y a maintenant quelques années, qu'il y avait un codon stop polymorphe dans le gène BRCA2. Donc, alors c'est au bout du gène, hein, donc il ne sert peut-être pas à grand-chose, mais il n'empêche, voilà, il faut toujours être très, très vigilant, et ça nous dit combien il faut être vigilant sur l'analyse de ces gènes. Donc on trouve des mutations pour lesquelles on s'engage assez facilement, et puis on trouve tout un tas de variants dont l'interprétation est difficile. Et cette diapositive que je dois à Rosette Lidreau et Sandrine Caputo, elle montre, c'est la structure du gène, de la protéine BRCA2 en couleur, du gène en sur la ligne en bas, et ces barres sont autant de mutations différentes, donc distribuées sur l'ensemble de la séquence codante du gène, et dont la fréquence est proportionnelle à la hauteur de la base. Et donc, cette diapositive pour vous dire qu'on trouve un très grand nombre de mutations ici délétères différentes, donc ça complique les analyses au point de vue du laboratoire. Mais le problème, c'est que, voyez, sur la diapositive présente, je vous ai dit, il y a 677 mutations différentes, délétères, mais on en trouve 860 dont on ne sait pas quoi faire. Et pour BRCA2, la différence est même plus importante. On trouve sur 100 variants, eh bien 62 et de signification, 62% sont de signification inconnue. Et on n'a pas de bons tests fonctionnels. On pourrait se dire qu'à cela ne tienne, on sait à quoi sert BRCA1, BRCA2, faisons un test biologique fonctionnel, mais ce sont des molécules complexes, multifonctions, et on n'a pas de tests qui emportent le morceau. Alors, on a créé, au niveau français, c'est l'instigation de Rosette Lidreau dès 1995, mais grâce aux 16 laboratoires qui font les tests BRCA1 et 2 en France, une base de données UMD BRCA1 et 2, dont la structure est développée à partir d'un... a été développée par Christophe Béroux. Donc, on a développé une base de données de mutations sur lesquelles on répertorie tout, les mutations délétères et les variants de signification inconnue. Et puis, on a un certain nombre d'arguments pour classer ces variants. Alors, je ne vais pas rentrer dans la classification des variants, mais c'est pour vous dire qu'on a besoin impérativement de ces bases de données pour interpréter ces gènes. Et la base de données française contribue à un consortium international qui s'appelle Enigma, je vous laisse lire, et dont la vocation n'est que d'interpréter les variants de signification inconnue. Et donc, c'est une centaine de scientifiques, enfin de chercheurs, qui appartiennent à 17 pays et qui se voient une à deux fois par an que pour parler des variants de BRCA1 et 2. C'est vous dire la difficulté. Et je dirais que voilà, la caractérisation de ces variants, c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, ce n'est plus le séquençage des gènes. Et donc, ça conduit, pour être assez puissant, il faut que tous les laboratoires s'unissent dans des consortiums. Et donc, ce sont des bases de données qui colligent de nombreuses caractéristiques de ces variants. Donc, je vous ai parlé d'Enigma. Eh bien, Enigma, maintenant, participe à ce que j'appellerais un méga-consortium, qui est The Global Alliance for Genomics and Health, et qui a pour vocation là, qui s'intéresse à toutes les maladies génétiques et qui réunit des données à la fois à partir des études de sujets malades, mais aussi de cohortes de sujets normaux. Et comme preuve du concept, eh bien Global Alliance a décidé de lancer le BRCA Challenge. C'est vous dire que l'étude de ce gène est emblématique en termes de des difficultés qu'a la génétique médicale pour réaliser ces tests génétiques. Donc, je reviens sur les préoccupations déontologiques. La deuxième point, c'est ne pas se tromper dans l'estimation des risques. Enfin, il y a une deuxième chose, c'est que les facteurs génétiques, même mendéliens, sont modulés par l'environnement et des facteurs génétiques. Et aujourd'hui, on fait des tests de prédisposition chez des femmes qui ont une histoire familiale ou qui ont elles-mêmes une histoire personnelle, un diagnostic de cancer du sein à un âge jeune ou de cancer de l'ovaire. Et on peut penser que leur histoire personnelle et familiale, elle conjugue à la fois, certes, BRCA1 et 2, une espèce de noyau dur, mais aussi des facteurs modificateurs qui, ici, vont tendre vers l'augmentation du risque. Et donc, il faut être très vigilant et s'interroger sur le risque tumoral, c'est ce qu'on appelle ici la pénétrance. Et s'il y a des facteurs qui tendent à diminuer les risques tumoraux, il faut être vigilant. Voilà. Et notamment, si on fait des tests dans la population générale, si on ne prend pas en compte ces facteurs modificateurs, eh bien, il y a un risque de surestimation des risques. Et juste cette diapositive, c'est que ces risques de cancer du sein, donc pour vous montrer, là on est dans un contexte BRCA et il a été rapporté, c'est un travail de Marie-Claire King, mais Stephen Narod avait fait le même sur une étude indépendante. Et ils ont montré qu'une femme qui a une mutation BRCA1 ou BRCA2, eh bien selon qu'elle est née avant 1940 ou après 1940, c'est un cut-off arbitraire, on retrouve la même chose, c'est 1930 avant ou après, eh bien, elle a un risque plus élevé de cancer du sein si elle est née après 1940, donc courbe en rouge, par rapport à celles qui sont nées avant 1940. Et en fait, on voit une augmentation du risque de cancer du sein dans un contexte BRCA qui est assez parallèle à l'augmentation des cancers du sein que nous avons vu, que l'on sait dans la population générale. Et ceci est une diapositive que je dois à Nadine Andrieux et qui a regardé l'impact de la parité, du fait de fumer, de l'âge à la ménopause sur le cancer du sein dans un contexte BRCA1. Donc la valeur moyenne est en bleu. Et si on prend une femme qui n'a pas d'enfant, qui fume beaucoup et qui est ménopausée après l'âge de 50 ans, eh bien son risque est plus important par rapport à une femme qui a eu 3 enfants, dont le premier avant 30 ans, qui ne fume pas et qui en plus a eu une ablation des ovaires à l'âge de 45 ans. Et vous voyez des différences de risque qui sont très importantes. Donc, il y a un impact de l'environnement, au sens très large du terme, qui comprend le mode de vie. Il y a également un impact de facteurs génétiques. Et là, ce sont deux familles, l'une avec des ronds rouges, que des cancers du sein sur 4 générations, et l'autre, que des cancers de l'ovaire. C'est la même mutation du gène BRCA1. C'est une observation individuelle que nous avons faite. Bien sûr, dans la famille où il n'y a que des cancers du sein, il ne faut pas attendre, il faut se méfier. Enfin, il va y avoir un cancer de l'ovaire probablement aux générations suivantes. Donc, il faut être très prudent sur la prise en charge. Et donc là, on parle, c'est une observation anecdotique, mais il a été validé par cette étude, sortie en 2006, que le risque de cancer du sein, quand le cas index, la première personne testée dans la famille est atteinte de cancer du sein, et surtout au cancer du sein chez les apparentés, et à l'inverse, quand le cas index est à eu un cancer de l'ovaire, le risque est surtout à l'ovaire. Et en fait, ceci traduit l'existence de facteurs génétiques modificateurs. Et donc, il a été mis en France, mais aussi dans d'autres pays, des études visant à rechercher ces facteurs modificateurs. Et en France, donc, nous avons lancé avec Olga Sinilnikova-Erard, mais aussi avec l'ensemble des cliniciens réalisant ces tests, les tests génétiques et les laboratoires, une étude qu'on a appelée GEMO pour Gene Modifier. Et cette étude, donc GEMO, qui est là, participe à encore un consortium international, SIMBA, pour donc l'identification de ces facteurs modificateurs. Ces études ont généré un très grand nombre de travaux, de publications, de résultats. Et je voudrais, mais là je vais passer très vite, mais pour vous dire que peut-être les premières applications d'études d'association, ce qu'on appelle le génome entier, je pense que sur lesquelles tu vas revenir, Catherine, un petit peu, eh bien peut-être que les premières applications ne seront pas tant pour les personnes de la population générale, mais dans un contexte mendélien. Je passe sur les modalités de cette étude, et pour vous dire que voilà, ces études ont conduit à l'identification de variants génétiques qu'on appelle des SNP, pour Single Nucleotide Polymorphism, et l'allèle rare de chaque SNP augmente d'un facteur 1,2, 1,4, le risque relatif ici de cancer du sein, ou le diminue 0,94. Ça ne change pas beaucoup si le sujet est homozygote pour l'allèle rare, on passe à 1,63, etc. Mais quand on est... Et donc voilà l'impact ici de 18 SNP donc dans la population générale. Le risque de cancer du sein, vous savez qu'il est de l'ordre de 10% à 80 ans. Eh bien, quand on combine les génotypes de ces SNP, on peut faire varier entre 5 et 20%. Maintenant, quand on est déjà dans un contexte BRCA2 avec un noyau dur de risque, eh bien, par exemple, ici, à 70 ans, si le risque moyen est de 50%, eh bien, la combinaison de ces SNP fait varier entre 80 et 30%. Donc, vous voyez, ces études nous font penser qu'on va tendre vers une estimation individuelle des risques plus précise en combinant donc ces facteurs génétiques modificateurs qui restent encore à être... On n'en a pas encore fait le tour, je dirais. Et puis, les facteurs que j'ai évoqués liés au mode de vie. Et donc, de nouvelles connaissances sont indispensables autour de ces gènes, mais je dirais que c'est la même chose, on peut dire la même chose en génétique médicale. Et donc, je veux souligner le rôle de consortiums internationaux. Je n'ai pas cité, mais il y a une étude, je ne l'ai pas cité, mais concernant les facteurs non modificateurs, il y a une cohorte qui s'appelle en France Genepso, qui participe à l'étude IBCCS. Il y a GEMO qui participe à SIMBA. Pour les variants BRCA1, nous avons notre base UMD qui participe à Enigma et qui va participer à Global Alliance. Et puis pour les nouveaux gènes, on met en place au niveau national une étude qui s'appelle TumoSpec et qui va participer à Complexo. Donc nous allons vers de nouveaux modes de la propriété intellectuelle et qui va passer par l'émergence de ce qu'on appelle les commons. Et donc on est dans des situations où il n'y a plus de monopole possible sur l'identification de gènes. Peut-être qu'on reviendra là-dessus sur la discussion. Maintenant, l'autre volet, donc la déontologie, ce que nous devons aux malades, aux personnes à risque, les aspects éthiques, et là où il peut y avoir un peu une... On doit aussi ces préoccupations aux patients, mais on a le patient lui-même qui a son mot à dire. Quelques points. D'abord, les tests génétiques ne sont pas des tests comme les autres. J'évoquerai la problématique de la confidentialité, intimité génétique, et on le verra, elle est mise à mal, cette intimité génétique. Et puis, c'est toutes les problématiques du consentement. Mais j'ai banni de mon discours le mot consentement parce qu'il y a derrière une notion de passivité. Et je préfère celui les mots de décision ou choix éclairé des personnes concernées. Choix éclairé qui passe par une information, j'y reviendrai. L'autonomie de la décision, bon, j'aurais pu vous raconter une histoire, mais je n'ai pas le temps, mais on verra. L'importance de l'accompagnement. Et puis sur l'information au risque de la désespérance, et je vous laisserai un témoignage. Donc, juste pour vous rappeler qu'un test génétique, c'est un acte clinico-biologique qui n'est pas comme les autres, qui est très encadré par la législation. Et ces tests génétiques, ils sont là, on ne parle que de constitutionnels. Je n'ai pas du tout évoqué ce qu'est la génétique somatique en cancérologie. Je vous verrai à la fin. Mais... Donc, ces tests ont la particularité d'être définitifs. Ils sont constitutionnels de la personne. Les résultats ont des conséquences, peuvent avoir des conséquences, pas toujours, pour la personne testée, mais aussi pour sa famille. Et donc là, j'ai repris l'arrêté du 27 mai 2013 qui définit les règles de bonne pratique applicables à l'examen des caractéristiques génétiques. La confidentialité des données, je dirais qu'aujourd'hui, la confidentialité, elle est très importante pour la prévention, pour empêcher la discrimination. Donc discrimination dans le domaine des assurances, dans le domaine du travail, par exemple. Et là, je pense en particulier aux assurances privées, la seule parade, c'est la loi. Aujourd'hui, la loi empêche l'utilisation des tests génétiques. Il faut savoir qu'elle n'empêche pas un interrogatoire sur l'histoire familiale et également sur les examens qui sont réalisés. Une femme de 40 ans qui fait des IRM tous les ans, alors qu'elle est indemne, ça signe le fait qu'elle est à haut risque de cancer du sein. Donc, voilà, les tests génétiques sont préservés, mais finalement, la situation clinique et familiale ne l'est absolument pas. Mais je dirais que l'intimité génétique, de toute façon, elle est mise à mal. Parce que d'abord, quand on veut comprendre une histoire familiale de cancer, parce qu'on ne comprend pas toujours, on a besoin de se mettre dans la meilleure situation possible pour trouver. Et donc, on va aller solliciter une personne qui a déjà été atteinte d'un cancer pour essayer, pour avoir la plus de chances possible de trouver la mutation responsable. Et donc, il y a des personnes qui viennent en consultation, en fait, que l'on fait venir parce que, par exemple, une mère vient parce que sa fille veut savoir si elle-même est à haut risque de cancer. Mais pour proposer un test de qualité à sa fille, faudrait-il avoir identifié la mutation responsable dans la famille ? Et donc, c'est par là, on va aller tester la mère. Donc, dès le départ, cette intimité génétique n'est pas préservée. Et puis, la loi s'en est mêlée avec l'obligation d'information des apparentés lorsqu'il s'agit d'une anomalie génétique associée à une maladie grave pour laquelle des mesures de soins et de prévention peuvent être mises en œuvre. Et c'est tout le dispositif de l'information de la parentèle qui concerne les apparentés et qui a été introduite en 2004, puis en 2000, et qui a été un peu modifiée en 2011, parce qu'en 2004, on confiait à l'Agence de la biomédecine un devoir de faire une enquête généalogique. Enfin, c'était impossible. Maintenant, on le confie quand même à la pauvre consultation de génétique qui fait ses tests, mais aussi à la personne qui a la connaissance du test. Et je dirais que là encore, que les prédispositions au cancer du sein, c'est un exemple type pour cette problématique de l'information de la parentèle, parce qu'on est dans une situation où on peut faire quelque chose quand on fait un test de prédisposition au cancer du sein de l'ovaire. Je n'ai pas du tout évoqué la prise en charge, mais en un mot, c'est recommander une surveillance mammaire dès l'âge de 30 ans par IRM, mammo-échographie, et ceci tous les ans. C'est aller jusqu'à discuter de la chirurgie mammaire de prévention. Et c'est recommander l'ablation des ovaires. Donc, il y a des choses à faire. Et puis, donc, un, il y a des choses à faire. Et deux, les apparentés sont concernés parce qu'on est dans une situation avec des risques élevés de cancer, avec une transmission dominante. Du seul fait de la transmission dominante, donc les apparentés sont concernés. Donc, l'oncogénétique est un champ privilégié d'étude de la mise en place de la loi. Maintenant, diffusion d'informations dans la famille et disponibilité d'un test, juste pour dire la complexité de l'information, le mode de transmission, les risques tumoraux. Et puis, il y a aussi à ça lié une complicité des affects. C'est difficile pour une femme de dire à sa fille, à sa sœur, « Ah ben, j'ai fait un test, puis il y a un facteur de risque, il faut que tu as un risque de cancer. » Les proches ont une espèce de réaction de protection, souvent de rejet. Je crois que c'est le mythe de Jonas qui est là, où l'annonceur de mauvaises nouvelles, c'est le coupable. Donc culpabilité, honte, colère. Et puis en même temps, on se rend compte aussi que les personnes sont très responsables et ont quand même une volonté de protéger les tiers. Donc il y a une certaine ambivalence. Et je me permets de lire cette lettre qu'un jour j'ai reçue parce que j'ai reçu un cousin qui avait eu cette lettre qui avait été écrit par une de ses cousines et qui diffusait l'information dans la famille. Et je trouve que c'est une lettre très, très jolie et que je lis avec l'autorisation de la personne qui l'a écrite. Donc, cher cousin, lors de ma longue hospitalisation l'an dernier, je fus interpellée par la médecine car les cas de cancer du sein sont nombreux dans la famille. Pour la postérité, je trouve que c'est un très bel usage du mot postérité, nous avons accepté de faire le test détectant si un gène aurait une éventuelle anomalie. Le papier 6 juin vous font pas du résultat positif. J'ai jugé de mon devoir de vous transmettre les conclusions. Vous êtes libre d'en tenir compte ou pas, mais au moins vous êtes au courant. Le cousin, donc elle a envoyé simplement à l'aîné de chacun de ses cousins, dans la fratrie des cousins. Donc le cousin qui recevra... attendez, où j'en suis, moi? Le cousin qui recevra la lettre avertira ses frères et sœurs qui jugeront de transmettre ou non l'information à leurs enfants par des photocopies. Je vis des moments difficiles, mais j'apprécie tellement la vie. S'il faut éviter les chocs psychologiques, nous pouvons être attentifs au progrès. Je trouve que cette lettre formidable, qui a su admirablement intégrer psychologie, la vraie vie, et puis des choses très pragmatiques, les photocopies. Voilà. Et donc, ça marche, j'ai vu, enfin, au moins un cousin et d'autres ont été faits. Et donc, c'est une information qui est complexe pour un choix difficile, donc consentement, comme je vous l'ai dit, plutôt que choix éclairé, je ne relis pas la liste qui font que l'information est difficile. Et ce que je voudrais vous dire ici sur cette lettre que j'ai reçue il y a maintenant quelques années et que j'ai repris dans l'ouvrage du CCNE sur ses 30 ans, « La bioéthique, pourquoi faire ?» et j'avais intitulé le chapitre « L'information ou le risque de la désespérance ». Je lis. J'ai accepté récemment... Alors, juste pour situer le contexte, il s'agit d'une lettre que j'ai reçue après une consultation de génétique chez une femme qui avait une soixantaine d'années, qui avait eu un cancer du sein bilatéral, qui s'inscrivait dans une histoire familiale où il y avait à la fois des cas de cancer du sein et de l'ovaire, et qui était ou qui est encore professeur de philosophie à l'université. Alors, donc, je dis, elle doit être armée avec la philosophie. Est-ce qu'il est là ? Il semble que ça devrait nous permettre de régler tout un tas de problèmes avec notre finitude. Enfin, ça, mais bon, j'ai accepté récemment de participer à une recherche du gène BRCA qui existe chez ma mère et sans doute chez moi-même et vous ai rencontré à cette occasion. J'ai gardé une impression violente de la consultation. Je me demande si la dimension médicale de cette rencontre n'a pas été oubliée. Je crois savoir que depuis Hippocrate, une précaution fondamentale est de ne pas exposer le malade aux supputations toujours hypothétiques qui accompagnent le travail du médecin. Vous avez cru bon de me dire que je risquais un cancer des ovaires et que celui-ci ne se soigne pas très bien. Elle a repris mon propos, prudent, mais quand même ferme, qu'il vaudrait mieux prévoir une chirurgie préventive. En outre, et du point de vue du respect dû au malade, du respect dû à la maladie en lui, imaginez que la contemplation de la voie droite qui nous relie au tombeau n'est pas une représentation qui améliore la possibilité de la vie. Souhaitant pour la médecine et pour les patients que la recherche médicale cesse de sécréter pareille cruauté aveugle, je vous adresse mes salutations humanistes. J'avais besoin d'un petit accompagnement psychologique, mais bon, j'ai fait une réponse que je vous passe. Et ce que je veux dire, c'est que cette manifestation est exceptionnelle, mais probablement un grand nombre de personnes la vivent également, peut-être pas de façon aussi importante, mais ont cette anxiété, mais n'ont pas forcément les moyens de l'exprimer aussi bien. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que s'informer pour connaître ici les enjeux d'un test génétique, c'est déjà un choix. Parce que l'information, elle est irréversible. Donc le droit de savoir et le droit de ne pas savoir dont on parle beaucoup, je crains que ce soit simplement une construction de l'esprit. Et donc, là j'aborde la dernière partie de mon introduction, c'est que, donc voilà, je vous ai fait une espèce de tableau qui, jusqu'à peu de temps, faisait que, ce qu'on faisait en oncogénétique, notre préoccupation c'était d'être toujours plus précis dans l'estimation des risques, dans la caractérisation de la maladie, de l'accompagnement des patients, puis on avait plus de moyens. Enfin voilà, tout allait relativement bien, nous étions dans une certaine construction. Et puis, il faut remettre sur le métier et peut-être revoir nos pratiques parce que la technologie, comme souvent en médecine, et les connaissances sont en train de bouleverser la pratique de l'oncogénétique. Et donc, je voudrais évoquer le séquençage très haut débit, l'identification de nouveaux gènes de prédisposition, les avancées thérapeutiques et puis quand génétique somatique et constitutionnelle se rejoignent. Donc, vous savez que au cours de ces dernières années, je dirais, enfin, très peu de temps, nos capacités de séquençage augmentent de façon formidable. Donc, il y a eu et elles augmentent parce que la technologie s'est améliorée et par là, ça va de pair avec une diminution des coûts. Et j'ai tenté là. En fait, c'est une diapositive que j'ai empruntée à Stanislas Yonet. Et donc, il a résumé le type de séquençage, Sanger. Donc, c'est les techniques classiques. NGS, c'est pour Next Generation Sequencing. Et puis, on parle maintenant de NNGS, qui sont pas encore là, mais qui vont arriver. Et aujourd'hui, séquencer nos 3 milliards de paires de bases, c'est plus vraiment un problème. Alors, je vais vous dire, aujourd'hui, on ne séquence pas comme ça, en dehors, dans un cadre de recherche, on ne séquence pas 3 milliards de paires de bases. On peut être amené, dans un cadre de diagnostic, où diagnostic et recherche sont en train de se télescoper, à séquencer ce qu'on appelle l'exome, c'est-à-dire l'ensemble des parties codantes de nos 20 à 25 000, de nos 25 000 gènes, plus aussi, il faut rajouter les micro-RNA, enfin un certain nombre de choses. Mais, donc ça, on a des avancées technologiques qui sont vraiment formidables et qui nous poussent pour comprendre ce que nous ne savons pas, pour identifier de nouveaux gènes, à tout séquencer. Je passerai ici, je n'ai pas de diapositive sur la problématique de ce qu'on appelle les données incidentes, c'est-à-dire on va tomber sur des mutations dans des gènes associés à des maladies qu'on ne voulait pas forcément rechercher, on pourra en parler dans la discussion. Et ce que je veux vous montrer sur cette diapositive, qui est dans le rapport INCa, en gros, c'est montrer c'est l'évolution du pourcentage de mutations identifiées, étude cas index, première étude dans la famille, par rapport au nombre de cas testés. Ce que je veux simplement vous dire sur cette diapo, ce n'est pas tant la dynamique, c'est parce que si ça décroît un peu, c'est parce que les critères se sont un peu élargis. Mais ce que je veux vous dire, c'est que finalement, aujourd'hui, on trouve une mutation dans environ 10% des cas. Des formes familiales ou des personnes qui ont un âge très jeune au diagnostic et qui sont... On a des critères assez sélectifs. Ça veut dire qu'on est loin d'avoir identifié tout ce que l'on veut. Alors certes, il y a BRCA1 ou 2. Il y a d'autres gènes de prédisposition au cancer du sein qui sont associés à d'autres localisations tumorales ou à un phénotype un petit peu particulier. Et puis, alors, il y a sûrement des mutations BRCA1-2 qu'on ne connaît pas encore. Enfin, peut-être pas. Je pense qu'on est très bon quand même dans l'identification de ces mutations. Mais il y a peut-être un certain nombre de familles, même sûrement, qui sont parmi les variantes de signification inconnue du BRCA1-2. Et puis, bien sûr, il peut y avoir des formes familiales fortuites de cancer du sein, mais il y a surtout d'autres gènes qui sont impliqués et qu'on en a identifié un certain nombre, mais par des approches, soit d'associations, soit d'études, d'études systématiques. Et ces gènes ont été approchés parce que c'était essentiellement des gènes candidats, parce que ces gènes étaient impliqués, étaient codés pour des protéines qui sont dans les mêmes passouets, les mêmes voies cellulaires que BRCA1 ou BRCA2. Et ce que je veux vous dire, c'est que le séquençage très haut débit arrive maintenant dans nos laboratoires. Et donc, bien sûr, il a d'abord pour vocation d'augmenter les capacités de séquençage. Et la première chose, c'est que ça va avoir un impact pour augmenter nos capacités, diminuer la problématique de la liste d'attente et réduire les délais. Et puis, ça va nous permettre d'augmenter le nombre de gènes étudiés par patient. Et on va faire quelque chose qui est un peu curieux, c'est qu'on va faire à la fois du diagnostic, on va dire aux personnes, BRCA1-2, on le fait en diagnostic, et puis on leur dit, on va faire d'autres gènes, mais on va le faire dans un cadre de recherche. Parce que BRCA1-2, même dès le début, quand ils ont été identifiés, très vite on est passé au diagnostic, parce qu'on avait déjà des idées relativement précises, incomplètes, mais quand même, sur la pénétrance, c'est-à-dire sur les risques tumoraux. Ici, sur les nouveaux gènes qu'on a identifiés via des approches de gènes candidats, eh bien, on manque encore de recul sur la pénétrance. Et ces gènes, en fait, sont impliqués assez rarement, et donc là encore, il faut un consortium de labos pour réunir toutes ces informations. Et donc, là aussi, ce que je veux pointer ici, c'est que finalement, ces consultations de génétique, elles font les deux en même temps. Elles font du diagnostic et de la recherche, et donc ça complique un petit peu les choses. Le deuxième volet, c'est, donc là, qui n'a rien à voir, c'est l'arrivée de traitements spécifiques de personnes atteintes de cancer pour lesquelles BRCA1 ou 2 est inactivé. Juste une diapositive très ancienne pour vous, qui est fondamentale parce que ce travail de Ralph Scully a permis de montrer que BRCA1 avait un rôle majeur dans la réparation des cassures double brin de l'ADN et par recombinaison homologue, puisque RAD51 est un acteur clé, cette recombinaison. Et puis, ensuite, a émergé, vous voyez, on est 20 ans, presque 20 ans plus tard, en fait, on a repris un concept ancien, qui est celui de létalité synthétique, où l'idée, c'est de dire, bon, ben voilà, les tumeurs qui sont BRCA1 ou 2 négatives, parce qu'elles ont perdu la deuxième allèle lors du processus tumoral, elles ne savent pas réparer leur cassure double brin par telle voie de réparation. Eh bien, on va bloquer une autre voie de réparation. En gros, on va sensibiliser encore la cellule tumorale. On va l'empêcher de réparer. Et donc, comme ça, en l'empêchant de réparer, après que la cellule est exposée à des agents génotoxiques, comme la radiothérapie, comme certaines chimiothérapies, notamment des alkylants, eh bien, la cellule va se nécroser, va s'orienter vers l'apoptose. Et donc, on a un autre agent qui inhibe la recombinaison, enfin qui inhibe complètement la capacité de réparation. Eh bien, ce sont ce qu'on appelle les inhibiteurs de PARP. PARP pour poly-ADP ribose polymérase. Et en fait, on bloque avec ces fameux inhibiteurs une voie de réparation. Et donc on a pu montrer, c'est un papier très très important, enfin c'est plutôt une communication importante, qui a montré que les femmes qui avaient un cancer de l'ovaire en progression, mais qui étaient encore sensibles aux platines, eh bien, elles sont BRCA1 mutées, ici, on met cet inhibiteur de PARP, eh bien là, c'est le pourcentage de survie sans évolution de la maladie, eh bien, il est beaucoup plus important chez les femmes mutées chez les femmes mutées qui ont l'olaparib versus celles qui n'ont pas l'olaparib, c'est-à-dire l'inhibiteur de PARP. Et donc, on a un risque diminué, c'est très rare, cette avancée, de 82% de la progression de la maladie sous olaparib chez les patients de platine sensible. Je passe sur cette petite nuance. Donc ça, on a, là, c'est vraiment un breakthrough dans la prise en charge de femmes atteintes de tumeurs dans un contexte BRCA1 et 2, parce qu'on a un traitement qui marche. Et donc, jusqu'à maintenant, on faisait des tests BRCA1 et 2 pour la prévention d'un autre cancer, pour la prévention chez les apparentés. Maintenant, on le fait aussi pour le traitement. Est-ce qu'on va leur donner à ces femmes le droit de savoir ou pas savoir? Est-ce qu'elles-mêmes vont s'autoriser à pas savoir quand il s'agit de leur traitement? Donc, vous voyez, les dogmes, enfin, plutôt pas les dogmes, mais ce qui nous guidait dans la prise en charge ne va pas bien. Et puis, un autre élément d'importance, c'est que, alors c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais en un mot, ce que je veux vous dire ici, c'est qu'on s'est rendu compte, et assez tardivement, parce qu'au début, les premières études n'allaient pas dans ce sens, mais que chez les femmes qui ont un cancer de l'ovaire de haut grade, eh bien, on trouve au total, ça c'est BRCA1 et là c'est BRCA2, 23% de mutations. Eh bien, là, 9 et 8, ça fait 17%. 17%. Donc, oui, c'est ça, 17% par rapport aux 23 le sont de fait d'une mutation constitutionnelle, et 6% sur les 23, eh bien, le sont du fait de mutations acquises au cours du processus tumoral. On parle des mutations strictement somatiques. Et donc, ces patientes qui ont une mutation acquise, elles sont aussi sensibles aux inhibiteurs de PARP, mais sans prédisposition. Et donc, ça veut dire que, voyez, si on fait le ratio, si on prend, ici, c'est tumeur de l'ovaire, eh bien, dans 75% des cas, l'inactivation sera constitutionnelle, et dans 25% des cas, elle sera strictement somatique. Et ça veut dire que quand on se lance dans un but thérapeutique, eh bien, on va faire une première analyse au niveau tumoral pour repérer, pour avoir plus de capacité à identifier une inactivation de BRCA et pouvoir traités de cette façon-là. Et donc, je passe sur cette diapositive. Et ceci pour vous dire qu'en décembre 2014, il y a eu ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, une autorisation de prescription de ce premier inhibiteur de PARP qui est l'olaparib, dans le traitement d'entretien de patientes adultes atteintes d'un cancer de l'ovaire de haut grade ou des trompes de Fallope, c'est la même maladie, récidivant et sensible aux platines avec une mutation BRCA, qu'elle soit identifiée au niveau germinal ou constitutionnel ou somatique. Et donc ça va changer les pratiques. Donc quand les tests à visée préventive se télescopent avec des tests théragnostiques plutôt pas agnostiques, y a-t-il encore un droit de ne pas savoir quelle information des personnes et quel impact sur l'organisation des tests? Vous voyez, donc beaucoup de questions, j'ai presque fini. Voilà. Donc il va falloir augmenter les capacités des tests. Et là, je dois vous dire que les 16 laboratoires qui en France font ces tests sont vraiment sur la sellette. Il va falloir faire les résultats, il va falloir les obtenir très rapidement. Les délais de consultation vont devoir être très rapides. Il faut qu'il y ait une équité d'accès, donc encore plus sur le territoire. Et en même temps, il faut poursuivre les travaux d'interprétation sur les UV, d'épidémiologie génétique, et le tout dans une situation très contrainte d'un point de vue non seulement financier, mais aussi en termes de démographie médicale. Et je soulignerai ici l'importance des conseillers en génétique. Et moi, je pense qu'il faut être novateur pour le défi de l'intervention. Je pense qu'il faut penser, développer des structures légères de consultation. Il faut même, parce qu'il n'y a pas des consultations génétiques dans toutes les villes de France, peut-être penser à créer des consultations distancielles. L'importance des livrets d'informations online, de Skype. Moi, je crois qu'il faut utiliser toutes les ressources, mais de façon raisonnée, que nous offrent les technologies. Et je voudrais finir en revenant sur cette diapositive que je vous ai montrée de Jean Dossé. Chacun sera responsable de son capital santé, qu'il devra prendre en main résolument avec l'aide de son médecin. Mais je suis inquiète parce que je trouve qu'on est là dans le positivisme triomphant d'Auguste Comte, après qui, comme vous le savez, l'homme est passé d'un âge théologique à un âge métaphysique pour un âge positif, admettant que la seule vérité accessible l'est par les sciences. Il a d'ailleurs fini par une espèce, alors je ne suis pas une grande philosophe, mais je crois qu'il a créé presque une sorte de religion des sciences. Donc je suis inquiète. Et je suis inquiète, je me demande si ce n'est pas une utopie quand on rappelle que 30% des Français fument, quand un fumeur, alors qu'il sait qu'un fumeur sur deux mourra d'une maladie liée au tabac, et quand 60% des patients ne suivent pas le traitement médical prescrit. Et d'ailleurs, juste cette dernière diapositive, c'est un travail qu'a fait Pascal Pujol qui est intéressant et qui, à partir des rapports d'activité de l'INCa et en prenant en compte la structure moyenne des familles, eh bien, il a regardé quel était le pourcentage de personnes qui venaient faire un test BRCA ou de prédisposition au cancer du côlon. Eh bien, c'est 28% simplement pour BRCA et 33%. Alors qu'on pourrait dire, bah, tiens, c'est un peu plus pour le côlon. En fait, c'est deux fois moins, parce que pour le côlon, les hommes sont concernés aussi. Ils ne viennent surtout pas, les hommes. Alors, voilà. Et donc, ma dernière diapositive, se risquer à la médecine prédictive. Je crois qu'il faut vraiment se rappeler ce que disait Jean Bernard à propos de la bioéthique en médical, la bioéthique dans le domaine de la médecine, et qui ne s'était pas strictement pour la génétique, mais qui s'applique tellement bien, c'est que les obstacles à la réflexion bioéthique, et je dirais à la conduite médicale, sont l'ignorance, le dogme, la magie et le lucre. Et le lucre, il y a derrière tout ce qu'on peut... Peut-être tu évoqueras, Catherine, sur le business autour des tests génétiques. Voilà, j'arrête là. Merci beaucoup de votre attention. J'étais un petit peu longue.